Top Boker Top, les amis. On revient dans notre étude de Maseret Avot. Page 81, effectivement. Donc, pour nous, dans le Perek Dalet, Mishnah Tetvav. C'est-à-dire Perek Dalet, Mishnah Tetvav. Rabbi Yanaï, Nachon. Boker Top. Ça va, les courageux?
Excusez-moi, s'il y a un monde de Hyundai Grid, je vais laisser allumer les feux.
Ils sont pas éteints tout seuls?
C'est pas possible. Non,
ils sont pas éteints, c'est
allumé.
Ah,
t'as vu? Yara, Bataï. Rabbi Yanaï Omer. Ein beyadenu lo mishalvat areshaim. ולא, ואף לא מייסורי הצדיקים. אוקיי? רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים, ואף לא מייסורי הצדיקים. קס, קסה ודיר. Il y a, normalement, un des principes de base du judaïsme, c'est Emouna Besachar Va'onesh. La foi dans ce qu'on va appeler, comment tu dis, la punition ou la récompense. On va dire autrement, cause-conséquence. C'est-à-dire, lorsque je fais quelque chose, il y a une conséquence. Iné. Ce matin, grosse dispute avec mon fils, parce qu'il ne voulait pas s'habiller parce qu'il pleut et qu'il voulait rester dans le lit et tout ça, machin. Truc que, peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà connu dans leur vie. Sauf que finalement, il est 8h moins le quart et qu'il faut que je sois là aussi. Donc, je lui ai crié dessus. Et sur le chemin, je suis venu à pied. Et sur le chemin, je lui ai dit, regarde, il y a des conséquences à chaque chose. Je t'ai crié dessus, maintenant j'ai mal à la gorge. Eh, maman, t'as roché. Maintenant, toi, t'as fait n'importe quoi, t'as pas écouté, donc tu vas pas chez ton copain ce soir. Cause, conséquence.
Il est trop sévère.
Non.
Trois effets.
Alors je lui ai dit, quand il est arrivé,
non, c'est le grand-père qui parle.
Pendant tout le chemin, il a pleuré.
Oui,
il a dit, non, donne-moi une chance. À la fin, je te dis très, très honnêtement, tu vois, je me livre complètement devant vous. Peut-être aussi pour avoir de vous votre expérience, parce que j'ai tout à apprendre de vous à ce sujet-là. Et je lui ai dit, en arrivant à l'école, tu sais quoi? Tu choisis. Tu peux aller chez ton copain. Mais sache que tu m'as fait mal au cœur.
Oui, mais il aura de la peine, pas aller chez son copain. Donc,
ah oui, il aura
la peine. Mais
qu'est-ce qui est plus. Donc, qu'est-ce qu'il doit choisir? Qu'est-ce qui est plus grave pour lui?
Mais c'est difficile à son âge de choisir.
Il me répondra tout à l'heure. Je lui ai dit, t'as jusqu'à 1h30 pour
moi. Il a quel âge?
9 ans.
C'est difficile à 9 ans de donner des choix quand on est bien comme ça.
Ah là là, la vie est dure. Ah, je me suis fait punir.
T'es un père dur.
J'ai pas oublié, je me suis rappelé que je me suis fait punir beaucoup quand j'avais 9 ans.
T'es un père dur.
Non, j'ai raison.
Voilà, c'est bien.
Non,
Un perdu, hein. Nounou.
C'est pas ta voiture.
C'était pas ta voiture. Bon.
C'est une voiture moderne.
Bon, ouais. Tom. Donc, tout ça pour dire qu'il y a, dans le judaïsme, une émouna forte dans ce qu'on appelle Sacha Vaonesh, t'as fait bien, tu reçois bien, t'as fait pas bien, tu reçois pas bien. Sauf que, on voit dans la métiou,
dans
la réalité, et je vous rappelle qu'il n'y a rien de plus fort que la réalité, on voit des Rechaïm qui kiffent et des Tzadikim qui souffrent. C'est correct. C'est pas possible. Le Racha, il doit en prendre plein la tête et le Tzadik, il doit être tranquille.
Le premier qui s'est étonné de ça, c'est Moshe
Rabbeinu. Exactement. Et là, tu ramènes évidemment la question posée par Moshe Rabbeinu dans le Talmud à Dieu.
Et qu'est-ce qu'il y a répondu à Kadosh Baruch
Hu ? D'abord, quelle est la question que Moshe a posée ? Avant la réponse, quelle est la question ? Moshe a posé 4 questions. La première, c'est comment est-ce possible qu'il y a Tzadik Véralo? Comment est-ce possible? Deuxième question.
Tzadik est
Ralo. C'est caché l'eau. Il a du mal. C'est difficile pour lui. C'est la première question. Deuxième question. Comment est-ce que c'est possible qu'il y a Racha Vetovlo? Racha et Ikif. Troisième question. Comment est-ce possible qu'il y a Tzadik Vetovlo? C'est un tzadik et kif. Quatrième question, comment c'est possible qu'il y ait Racha Véralo? Alors, ça c'est les 4 questions. Oui.
À quel moment j'ai déjà entendu ce midrash, mais il sort d'où? Il est en rapport avec quelque chose
dans... Oui, alors, dans le midrash, non, le midrash il se replace au moment où Moshe il est vers Sinaï. Au moment de Chet HaEgel.
Ah, au moment de Chet HaEgel.
Et quand Dieu lui fait voir toutes les générations, alors il va voir également Rabbi Akiva. Et il va voir Rabbi Akiva qui va se faire exécuter par les Romains. Et à ce moment-là, il dit, « Zotora vezosrara » et donc c'est là qu'il pose la question. C'est-à-dire, « Odenina et derachecha » Je veux comprendre tes chemins. Donc je veux comprendre ça, ça, ça et ça. Je veux comprendre d'abord la question de Moshe. La première question, elle est facile. Quoi, un tzadik et il kiffe pas. Un rachat et il kiffe. Ça, on comprend. C'est basé sur un point de vue moral. Mais la deuxième question de Moshe, à savoir, quoi, tzadik et il kiffe, et rachat et il kiffe pas, mais c'est ce que tu voulais. Ken, mais tzadik, ça lui suffit pas d'être tzadik. Il faut aussi qu'il kiffe.
Il récompense.
Ouais, mais en fait, il est content du simple fait qu'il est tzadik. Quoi, il a besoin de cette récompense.
Parce que c'est
une
récompense d'être tzadik.
Ben voilà, ça suffit. J'ai pas besoin d'une récompense. Et le rachat, tu sais ce qu'il va prendre là-haut, Bagainom, ça suffit pas. Faut aussi qu'il soit, qu'il souffre ici.
Il y a un salaire ici, un salaire.
Le problème, c'est que Moshe, hein, il avait trop tendance à être là-haut. Il y a une histoire qu'on raconte avec Reb Zusha de Anipoli. C'est Reb Zusha. Reb Zusha. Ça, c'est le problème de faire face à des tzadikim sfaradim. Là, les rabbins de la Chassidoute, on ne connaît pas ici, hein. Le Baal Shem Tov, t'as entendu parler?
Ouais.
Quand même. Le Baal Shem Tov, il avait un élève qui s'appelait le Magid de Meserich, Rabbi Dov Ber Meserich, qui est officiellement le vrai fondateur du mouvement chassidique. Le Baal Shem Tov a lancé l'idée, mais ça, il n'a pas fait un mouvement. Le Magid de Meserich, c'est lui qui va créer le mouvement. Il va avoir à peu près une dizaine d'élèves sérieux qui vont être... les premiers fondateurs de dynastie chassidique. Parmi les élèves les plus connus, on a le fondateur de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Ladi, l'Admor HaZaken. On a Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. On a, par exemple, Rabbi Israël de Rougin. On a, par exemple, Rabbi Elimelech de Lijansk, le Noam Elimelech, et son frangin, Rabbi Zusha de Anipoli. Ok ? Reb Zusha, il y a une histoire qui est racontée sur lui, qu'un jour, il y a une femme qui est venue le voir dans son bureau. Il a dit, Rabbi, prie pour moi, j'ai envie d'avoir un fils. À ce moment-là, Reb Zusha, il a pris le kvitel. C'est un kvitel?
Le
kvitel.
Le kvitel, c'est quoi?
Le kvitel, c'est le petit papier avec lequel il a marqué la demande. C'est un pétek. Kvitel, pétek. Et donc, il lui a dit, il a dit, je sais pas son nom, hein, mais c'est un nom où je suis sûr que ça touchera ni vos pères, ni vos mères, ni vos sœurs, ni personne. Il dit, Shprinze, qu'elle a un fils. Top, non, c'est son rôle de tzadik, il prie. Et là, tout d'un coup, il entend une voix qui lui sort du ciel et qui lui dit, Zusha, arrête de prier. Je veux pas qu'elle ait de fils. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait, Reb Zusha? Ben, il continue à prier. Il s'en fiche de ce que la voix elle dit. Lui, c'est un tzadik. Le tzadik, il doit prier. C'est son rôle de tzadik. Donc, il continue à prier. Et là, la voix continue et lui dit, Zusha, je t'ai dit d'arrêter de prier. Écoute-moi bien. Si tu continues à prier, si tu t'arrêtes pas, elle va avoir un fils à cause de ta prière. Mais toi, tu n'auras plus de Olam Haba. Alors, Zusha, il a dit... Hein?
Parce qu'il y aura des
œufs. Et là, Rav Zusha, il dit, quoi, quoi? Et voilà, il dit, oh, il est fait merde. Sauf, sauf, je peux prier, je peux faire la Torah sans attendre la récompense du Olam Haba. Comme ça, je suis un vrai tzaddik, je fais les choses sans attendre de récompense. Hein, c'est, sauf, sauf. Et donc, il a continué à prier. Et là, la voix, qui avait encore des choses à dire, elle a dit, Zusha, si tu pries, elle va avoir un fils. Et ton Olam Haba, tu l'auras quand même. Hein, t'as vu? Et il a continué à prier. Maintenant, l'âme. Parce que Béhémeth, ne pas vouloir le Olam Haba, Zechet. On a vu dans le début de la Mishnah, dans Pirkei Avot, que Antigone Omer, Al Tiyu Ka'avadi Ba Meshamshim Et Arav Al Menat Lekabel Pras. Qu'il ne faut pas faire les choses pour avoir le Olam Haba. D'accord? Sauf que Dieu, il veut te donner le Olam Haba. C'est le faire de ne pas recevoir. C'est le Yafé. Dieu, il veut te donner, il veut te faire kiffer. C'est comme si on a déjà été, je ne sais pas si vous avez déjà été dans votre jeunesse ou votre âge adulte de maintenant, est-ce que vous avez déjà été chez une grand-mère polonaise, voire slash marocaine, slash tunisienne, slash algérienne, en fait une grand-mère juive, qui vous a préparé des gâteaux, et que toi tu sors de table et que tu n'en peux plus. Et que t'arrives et elle te donne, mange mon fils. Bémet, t'en veux pas. Et en plus, tu sais que les gâteaux de cette famille-là, ils sont pas. Mais elle, elle veut te les donner. Si tu les prends pas,
tu fais de la peine.
Tu sais comment tu vas lui faire de la peine? Si tu les prends, tu sais comment toi tu vas souffrir. Mais bon, elle est malade.
Si tu les prends, tu vas être malade.
D'accord, mais bon, tu vas les prendre quand même. D'accord? Ah, nous, on va pas être malade du Olam Haba, des rabbins, on va être super contents. Et à Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner. Donc, ma tzadik vetov lo, lo maspik à Olam Haba, lo! Lo maspik! Olam Haba, il aura! Parce que Dieu, il veut donner. Souyam! Mais gamma gyalo po?
Il peut kiffer.
Mais ouais! Le rachat, il aura pas son Olam Haba, bah, chez lo! Mais faudrait pas non plus qu'il pense que c'est chavelo, que ça vaut le coup. De faire n'importe quoi ici.
Oui, mais le rachat, il s'en fout du Olam Haba.
Nahon ! Mais donc, il faudrait pas qu'il pense.
Donc il n'attend pas de salaire du Olam
Haba. Mais c'est l'air, mais il faudrait pas qu'il pense que donc ça lui profite ici. Ok ? Maintenant, je reviens à la première question, parce que la première question, c'est celle qui nous intéresse le plus. Et c'est celle qui est ramenée ici dans la Mishnah. Comment ça se fait que le tzaddik souffre ici, et que le rachat, il kiffe ici ? Alors, pas tous, évidemment, mais certains. À cette question-là, qu'est-ce qu'il a reçu comme réponse, Moshe ?
Ne te mêle pas de ça. En clair, en gros, il a dit c'est pas ton domaine, c'est pas.
Il lui a dit un mot d'abord. Il lui a dit un mot d'abord. Il est important ce mot.
Pas les mots exacts.
Alors viens, je vais te rappeler. Il a dit.
Il a dit maspik, ça suffit.
Moi. Non, il a pas dit maspik. Il lui a dit stock. Stock. Ça veut dire tais-toi.
Voilà.
Lama, virgule. Il aurait pu se contenter de lui dire tais-toi. Ne te mêle pas de ça. Mais il a quelque chose d'autre à lui dire.
Non, il a dit parce que c'est le marche à
pied. Voilà, d'accord. Alors, viens, je te le dis. Il dit, j'tok, kach ala ba machashava lefanav. C'est-à-dire, tais-toi, parce que c'est ainsi que c'est venu devant ma pensée. C'est ainsi que c'est dans ma pensée. Mais pourquoi alors il lui a dit, j'tok? Soit tu lui dis, te mêle pas, et puis c'est tout. Soit tu lui dis juste, c'est comme ça que je pense. Pourquoi il a besoin de lui dire « Tais-toi, c'est comme ça que je pense. »
Pour qu'il arrête de prier.
Parce que si tu veux comprendre quelle est la pensée qui est devant moi, tu dois te taire.
D'abord.
Si tu, bah, bien sûr. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir comprendre quelque chose qui n'est pas de ton domaine, il faut que tu taises un petit peu toutes les voix qui sont les tiennes.
Oui.
Eh oui. Les voix du Seigneur, ben non, justement, elles sont pénétrables à condition que tu te taises.
Ouais.
C'est vidéo.
Il faut être prêt d'écouter.
C'est vidéo gaïnian, sûrement. C'est-à-dire que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, l'homme a tsati la gouf tov, elle a shtika.
Seulement si je t'ai. Il ne peut pas te poser de questions.
C'est-à-dire qu'il a posé la question et maintenant, si tu veux avoir la réponse, c'est toi.
Oui, il faut être prêt à l'écoute de la réponse.
Très souvent. La personne qui pose la question, elle veut déjà donner la réponse dans sa question.
C'est ça.
Non, je pense que. C'est la question.
Hein?
C'est-à-dire qu'on parle de Rocher, là. N'importe qui.
Mais, c'est-à-dire que Moshe, quand il posait la question « Comment est-ce qu'on cachérise un micro-ondes pour Pessah ?» C'est-à-dire qu'il a posé la question, il a attendu la réponse sans problème. Mais plus la question est forte et profonde, plus celui qui est grand, il a besoin d'en comprendre tous les travers. Toi et moi, on se serait contenté de Shtok.
Ouais,
mais Moshe, Dieu, il sait qu'il ne se contentera pas de Shtok. Il dit Shtok, pourquoi ? Pour que tu puisses comprendre à Marchava chez les Fanais. Et c'est la grande différence entre
Bota et Shtok. Oui, c'est pas clair là. Parce que si il lui dit Shtok, pourquoi ? Parce qu'il a posé la question.
Uh-huh.
Or, si il Shtok, il ne pose pas de question. S'il n'y a pas de question, il n'y a pas de
C'est pour ça qu'il ne lui a pas dit Shtok avant qu'il pose la question. Il ne lui a pas dit Shtok avant de poser la question.
C'est après la question. Il lui dit Shtok après la question.
Après la question.
Oui, exactement.
Ben, mais sauf que Dieu.
Attends. Il
ne pose pas de question, il n'y a pas de Shtok. Tu as raison. Dieu, il sait que Moshe, il va poser la question. Nahon ? Non, Dieu, il sait que Moshe, il va poser la question, là, dans deux secondes. Il aurait pu lui dire au début de la question, tais-toi. Il veut qu'il pose la question. Il veut qu'il comprenne, par contre, qu'une fois que tu l'as posée, c'est-à-dire la question est légitime.
Sois à l'écoute de ma réponse.
Mais pour que tu puisses entrevoir une réponse qui est la mienne, il faut d'abord que tu fasses silence de tout ce que toi tu penses.
C'est pas
sévère. Stop. Tais-toi. Non, c'est pas de l'hébreu moderne. Non, attention. Non, attends, deux secondes. Oui, mais. Nachon.
Arrête les frais.
Nachon, mais ça, c'est en hébreu moderne.
Dans l'hébreu moderne.
Non, deux secondes. En hébreu moderne, quand tu dis à quelqu'un shtok, c'est une insulte presque. Dans l'hébreu de la Torah, shtok, c'est tais-toi. C'est l'homme méchant, c'est l'autre, c'est tais-toi. Maintenant, tais-toi parce que je veux que tu comprennes autre chose. Car à la bamarchava le fanaï. Ça, c'est une question qui est posée par exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a des espaces dans le Sefer Torah? Il y a des espaces entre des mots, des fois des blancs. Pourquoi des blancs? Elle nous dit Sefer Zohar, c'est que dès la tête, les Moshe, revach les Itbonen. C'est pour donner à Moshe du temps pour réfléchir à ce qu'il vient de marquer. C'est, on a besoin de temps en temps, stop, silence, réfléchis.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment il peut. Moshe, il ne sait pas qu'il faut réfléchir avant de parler. Il ne sait pas qu'il faut qu'il entende.
C'est pas avant de parler.
Mais
mon ami, ça c'est la faute des Chachamim. C'est pas la faute des Pshuté à âme. Les Pshuté à âme, les gens qui ne savent pas, ils savent qu'ils ne savent pas. Donc quand ils ont une question, ils attendent juste la réponse.
Non,
mais les gens qui savent tellement de choses.
Ouais,
ils ont déjà plein de réponses.
Ou qui croient savoir.
Non, mais même qui savent. Non, t'as raison, il y a ceux qui croient savoir, mais il y a même ceux qui savent plein de choses. Ils ont des réponses pour tout. On avait vu il n'y a pas très longtemps la Mishnah qui nous dit « Ne sois pas rapide à répondre. »
Ouais.
Parce que quand tu es rapide à répondre, quand tu as posé une question, tac au tac. Tu fais genre, tu sais tout déjà. Peut-être que dans la question, il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris.
Puis il y a l'idée aussi de laisser un enseignement à chaque fois.
Non seulement, d'accord. Maintenant, mais je dis, le plus dur, c'est pour celui qui sait. Parce qu'il pense qu'il a déjà une réponse. Vous vous rappelez du dernier personnage des quatre acolytes de la Haggadah de Pessah ? On a le Chacham, on a le Racha, on a le Tam, et on a...
Celui qui s'est fait.
Seulement, dans toutes les Haggadot dessinées, le Sheinod Alishol, il ressemble à un débile. Maron ? Le Chacham, il ressemble à mon fils. Le Racha, il ressemble au fils du voisin. Le Tam, il ressemble au fils de ma belle-sœur, que bon, ça, il est Hamoud, mais bon.
C'est pas mon fils, quand même.
Hein? Ma belle-sœur, si tu me regardes, ton fils, il est très bien. Ouais, on va couper au montage. Ah ben le Shein de Alishol dans la Haggadot dessinée, c'est celui que bon ça devait être pour une quand Dieu il l'a fait celui-là. C'est-à-dire...
On peut avoir la même attitude vis-à-vis des chaînes et vis-à-vis des autres.
Quoi ?
Je veux dire que j'ai du mal à interpréter.
C'est ce que Dieu nous demande.
Dieu
me demande d'apprendre de ses midot à lui.
Non. Ce que tu dis, apparemment Moshe aurait des réponses.
Oui.
Ben, c'est comme ça qu'on pose la question à Hachem. On peut poser la question donc à son égal.
Mais chasse le naturel.
Différemment, mais je veux dire, un peu comme si je, J'essaie de mettre en difficulté Hacham. Parce que moi j'ai des réponses.
Non.
Donne-moi la réponse et puis.
T'as pas compris. T'as pas compris. C'est même pas conscient. C'est-à-dire, qui m'a donné toutes les réponses, toutes les connaissances que j'ai? C'est Dieu. Moshé, il le sait, c'est Dieu qui lui a donné. Donc il a déjà plein de réponses. Il vient avec une tonne d'idées dans la tête qui sont déjà pour lui des réponses. Quand il pose la question, Lama esh tzadik veralo, c'est parce qu'il sait que yesh sachar va'onesh. Et que donc il sait que normalement, celui qui a fait bien, il doit recevoir bien. Mais qui lui a appris ça? Dieu. Donc il dit, Dieu, tu m'as appris un truc, je veux comprendre comment ça marche. Arrête, ta 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 ta. Et donc c'est notre problème du Sheino de Alishol. Parce que Sheino de Alishol, je vous ai dit, il ressemble à un mec qui connaît rien, qui est débile. C'est faux. Le Sheino de Alishol, pour moi, c'est un professeur émérite à l'université, spécialiste en égyptologie ancienne. Il connaît par cœur la 18e dynastie. Il connaît par cœur les trouvailles archéologiques qui sont en rapport avec la sortie d'Égypte. Et donc il ne sait pas Alishol. Parce qu'il a déjà toutes les tchouvotes. Il connaît tout. Et donc, il ne s'est même pas posé la question. Il croit qu'il sait tout. Alors, le Sheino de Alishol, c'est l'autre. Moshe, il sait Alishol. Mais il a aussi plein de questions. Dieu lui dit, si je t'op, tashtik et kol ha-sheelot et kol ha-tchouvot. Et maintenant, écoute.
Mais il a une vie, Moshe. Tu peux comprendre qu'il y a des questions à se poser.
Mais bien sûr, non mais... La question, le questionnement, il est tout à fait bon et normal. Seulement, il y a un moment donné où il faut que tu comprennes que pour pouvoir entendre la réponse, tais-toi. Maintenant, au niveau de Moshe, c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais c'est vrai pour nous. C'est vrai pour nous. Nous aussi, on pose des questions et on a déjà des réponses. Et quand le Rav, il nous donne la réponse qui n'est pas celle qu'on voulait entendre, on lui dit, non mais, Rav. Comme j'ai vu un jour un élève poser la question au Rav Cherki, ah. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Pourquoi Dieu il a créé le monde? Alors le Rav il l'a regardé, il lui a dit, regarde, je pourrais te répondre en te disant que le Ramchal nous a expliqué dans la Gdama du Metzilat Yesharim que Teva Tatov Leetiv, que la nature du bien c'est de faire le bien, qu'il n'y a pas de plus grand bien que de créer, et donc Dieu qui est le bien il a créé parce qu'il voulait faire le bien. Mais dans la mesure où ce n'est pas ça ta vraie question, je ne vais pas te répondre ça. Je vais attendre que tu me poses ta vraie question. Alors il dit, comment ça? Il dit, tu t'en fiches de savoir pourquoi Dieu il a créé le monde. Tu as une autre question, alors pose-la. Et là, tu vois qu'il n'est pas bien. Et il dit, Tov, nous, ok, Rav, pourquoi je n'ai pas le droit de toucher ma copine? Pourquoi je n'ai pas le droit de toucher ma copine? C'était ça la vraie question de pourquoi Dieu il a créé le monde. Parce que qu'est-ce qui le dérange dans la création du monde? C'est qu'il a une copine et que les rabbins lui ont dit qu'il n'a pas le droit de toucher sa copine avant le mariage.
C'est bizarre.
Je t'invite à côtoyer les jeunes de 18 à 30 ans.
Ouais.
Pas que du Maroc, mais de partout.
Ah ouais.
Parce que ça ne se fait pas de dire aux rabbins hein, des trucs comme ça. Ouais. Donc je vais le détourner. Mais le rabbin, voilà. J'ai vu le rabbin qui a un petit peu de bouteille, il a l'habitude.
Il a
vu le coup. Moi, il m'aurait posé la question, j'aurais dit le Ramchal. Et j'aurais